Vous écoutez Tech Café, une émission de Guillaume Vendée. Tech Café est soutenu en financement participatif avec Tipeee et Patreon.
Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission hebdomadaire sur la tech. Retrouvez tous les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site techcafé.fr, techcafe.fr. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne rien manquer des prochaines diffusions. Vous pouvez également me suivre à titre individuel sur Twitter, @guillaumevendée, et sur ma page Facebook, Guillaume Vendée. Et alors, c'est un grand plaisir d'être accompagné dans cet épisode. Alors, ceux qui nous écoutent depuis longtemps vont tout de suite comprendre si je donne les mots-clés. Allez, vélo, barbe, coup de gueule. Est-ce que vous pensez comme moi ? On va pas le résumer à ça. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ?
Salut, belle présentation, merci.
Pierre-Olivier Dibman qui fait son retour depuis... ça fait quelques temps qu'on t'avait pas entendu pour un épisode à part entière. T'avais pu réagir à quelques discussions qu'on avait eues avec Guillaume Poggiaspala sur l'intelligence artificielle, qui ont été fort intéressants, sur lesquels il y avait des bons retours d'ailleurs en commentaire. C'est cool. Et puis, bah, merci beaucoup d'être, j'allais dire, à nouveau... un peu plus dispo pour Tech Café, ça fait très plaisir.
Ça me fait plaisir.
Bon, excellent. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bon, on va les rediriger peut-être. Tu as, comme on le dit dans le milieu, un streetcast, ou pour ceux qui connaîtraient pas un podcast.
Je fais partie du gang des streetcasters, effectivement. j'essaye régulièrement de faire des interventions en essayant de dire des trucs intéressants, ça ne l'est pas toujours, c'est souvent des coups de gueule, je remarque, mais c'est pas grave, moi ça me détend, et puis il y en a qui ont l'air d'apprécier.
Tu rappelles à ceux qui ne connaîtraient pas comment on peut t'écouter, c'est quel podcast qu'il faut chercher ?
Il s'appelle Le Blabla Pod, et pour le moment, il n'est pas super référencé partout, il est essentiellement dispo sur Spreaker, mais je promets d'améliorer ça dans les semaines à venir.
Et puis, si jamais vous entendez des petits bruits de sirène en arrière-plan, des petits bruits bucoliques, sachez que Pierre-Olivier a le meilleur endroit pour enregistrer un podcast, il est sur le toit d'un immeuble, donc c'est avec grand plaisir qu'il s'est joint à nous par une température estivale, on va dire, on imagine au Canada. Bon, sans autre forme de procès, on va passer aux news. On a plusieurs rubriques de prévues, des annonces smartphone du moment. J'avais au départ prévu l'annonce, mais je pense qu'il y en a plusieurs qu'il faut rassembler pour qu'on parle des annonces smartphone du moment. C'est beaucoup de l'Android. On va parler de sécurité, de vie privée, de petits sujets autour de Facebook, la grande famille Facebook, pas que le réseau social. Et puis une rubrique en bref. On va commencer donc tout de suite avec l'annonce du smartphone qui a été un petit peu buzzé, on va dire, sur les sites de tech, c'est les smartphones de la famille Huawei. J'ai toujours un petit peu des doutes sur la manière de les prononcer sans avoir l'air idiot. Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro, qui sont les nouveaux fers de lance du constructeur, avec une stratégie, ça va peut-être pas vous surprendre, de smartphones avec des écrans borderless. Deux types de smartphones, c'est un grand écran ou un très grand écran, avec ma foi un design plutôt sympa à voir à l'usage et à voir évidemment dans le temps comment il dure. Et puis quelles sont les caractéristiques principales qui font que ce smartphone n'est pas comme les autres, ou pas, on va en discuter ensemble, c'est qu'il intègre des technologies de deep learning relativement poussées d'un point de vue matériel et logiciel, qui concrétise par exemple avec des usages tels que la traduction instantanée, ou pourquoi pas le fait qu'il est capable de comprendre quelle est la photo qu'on essaye de prendre, si c'est du food porn, si c'est un portrait, si c'est un paysage, et donc de s'adapter à la prise de vue. C'est presque les seules choses qu'on peut relever de notable tant il est un bon smartphone, mais qu'il ne sort pas des codes établis maintenant des bons smartphones. Pierre-Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce type de smartphone? Et puis peut-être de manière un peu plus large, comment est-ce que tu vois le panorama des smartphones? On est tous en train de dire, c'est bon là, c'est fini les révolutions dans le smartphone. Est-ce que ça le confirme?
En fait, je pense que tu as pas mal résumé les choses. Et puis, je vais me faire écho au précédent épisode de Tech Café où l'autre Guillaume a utilisé une expression que j'avais trouvée marrante. Oui, c'est un flagship comme les autres. Et alors, un flagship, c'est quand même censé être le porte-étendard d'une marque. C'est quand même censé être le truc qui casse la baraque, quoi, que les gens doivent retenir. Ah ouais, ok, c'est ce téléphone qui fait ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des produits tellement standardisés qu'il n'y a plus beaucoup d'innovation, tant au sens technique que usage. Et on est effectivement sur des gammes bien polies, bien dressées, qui sont à peu près les mêmes d'une marque à l'autre. Et donc là, objectivement, entre un Huawei Mate et un Samsung Galaxy, bon, les différences tiennent essentiellement dans le nom de la marque, quoi.
Alors, il y a quand même une fonctionnalité, pour me contredire moi-même, il y a une fonctionnalité qui est quand même intéressante, qui est pas totalement nouvelle, puisqu'on l'a déjà vu du côté de chez Samsung. Mais grosso modo, la promesse, c'est que si vous branchez votre smartphone à une télé avec un câble USB HDMI, eh ben vous arrivez à transformer votre télé, ou en tout cas votre écran, hein, en l'occurrence, en bureau étendu. Alors, soit c'est un écran supplémentaire de votre smartphone, soit votre smartphone se transforme en trackpad et l'écran devient une vraie surface d'ordinateur, mais évidemment tout l'aspect calcul matériel reste dans le smartphone. Ça m'a l'air d'être géré très intelligemment, ne serait-ce que par exemple la gestion des appels, cette idée de trackpad qui est plutôt pas mal, le dispositif a l'air assez réactif. Moi j'avais l'impression en voyant la vidéo que c'était pas que de l'inspecteur gadget, que c'était pas que l'espèce de vieille envie de bidouiller son smartphone en ordinateur, mais vraiment une solution qui était relativement maligne. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est un usage qui te parle? Et est-ce que tu penses qu'on va voir fleurir toutes ces initiatives-là aussi sur tous les autres smartphones qui vont arriver?
Alors moi je vais faire mon blasé. Déjà c'est pas nouveau. Ça, c'est le premier truc que je suis obligé de dire. De toute façon je le dis à chaque fois. Mais c'est vrai. On a réévoqué évidemment le Motorola Atrix. Enfin c'était pas le seul. Il y a même eu des téléphones Android avec des prises HDMI. Donc brancher un écran extérieur, c'est pas tout à fait nouveau. Bon là évidemment forcément on a quand même fait des progrès. Donc c'est pas mal plus utilisable, la souris, enfin l'écran qui sert de souris, c'est très cool. Bon, c'est pas nouveau non plus. Il y avait des apps qui le permettaient de le faire, mais là ça vient comme un ensemble, c'est un package, donc c'est très cool. Maintenant, la deuxième partie blasée de moi, c'est que en vrai, côté presse et donc côté utilisateur, tout le monde va s'en foutre jusqu'à ce que Apple sorte un téléphone qui fasse la même chose. Et là, bah, ça va être une révolution, etc. Voilà. Je suis un petit peu blasé aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai presque envie de prendre des paris que c'est une fonction qui va plaire à une petite minorité de gens qui auront choisi ce téléphone exprès pour ça et qui seront très contents avec, mais que pour le grand public, ça ne sera pas utilisé et qu'un jour, Apple fera la même chose et puis là, tout le monde dira « mais vous en êtes où, Android ?»
Voilà. Comme par exemple la recharge sans fil ou d'autres fonctionnalités qui semblent…
Ou le fait d'enlever les fucking boards.
ou de dire que les écrans LED sont enfin suffisamment bons pour les iPhones. Alors, c'est vrai que ça fait bondir, et d'ailleurs même moi qui suis plus utilisateur de l'écosystème d'Apple, quand on se penche un peu sur l'idée, c'est finalement on en arrive à la conclusion, en prenant en compte le fait qu'il n'y a pas de grande révolution dans l'univers de ces appareils-là, et en prenant en considération le fait qu'une révolution n'est une révolution que, je caricature beaucoup, hein, que quand Apple la propose, est-ce que ça veut pas dire justement, encore une fois, à ce niveau-là, que du coup les innovations tech, c'est la réponse à laquelle on ne peut pas répondre non. Est-ce que ça veut pas dire là que du coup l'innovation il y en a, mais que du coup c'est plus un mix maintenant de marketing, de publicité et de façon de présenter les choses, de les mettre en vitrine, relié à l'innovation. J'ai toujours en tête un épisode que tu avais fait dans le Blablapod, ça va être une pub fil rouge du Blablapod, où tu parlais de l'invention du hand spinner. Et je vous invite évidemment à écouter l'épisode, remonter dans le flux et écouter cet épisode où, en gros, en conclusion, tu expliquais, et ça m'avait vraiment marqué, que en gros, une invention n'était rien si elle n'était pas packagée, mise en perspective d'une commercialisation et mise en marché, tout simplement. Et tu peux pas te satisfaire juste de faire l'invention. Est-ce que finalement, on peut pas retourner l'argument là-dessus? Est-ce qu'on peut pas simplement dire, finalement, c'est bien, vous arrivez à faire des fonctionnalités sympas, mais c'est pas tout. Il faut savoir aussi la faire adopter du grand public, et là, force est de constater à ce moment-là qu'Apple serait peut-être mieux placé que les autres.
Alors, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est une évidence, et c'est la raison pour laquelle le Motorola Trix n'a pas marché, c'est parce que bon, il y a plein de choses qui n'étaient pas super au point, le discours n'était pas au point, la techno, bah, ça marchait bien, hein, mais c'était un peu lent, fallait des fils, tout ça, et puis des fils pas standard, enfin que tu te balades pas, il y avait un genre de dock, enfin il y avait plein de choses à revoir dans la copie. Ceci dit, là ce que Huawei a proposé, c'est bien packagé, c'est bien mis en avant, c'est ouais. Communiqué comme il faut à la presse. Et donc, oui, effectivement, l'exécution, c'est ça qui compte et non pas l'idée. Ceci dit, l'exécution de Huawei, elle est là et je pense pas qu'elle mérite le silence dans lequel elle va se plonger dans les semaines à venir. Même si ce que tu dis est vrai, il y a quand même un effet d'aura autour d'Apple qui fait que même quand ils habillent mal quelque chose, quand ils le sortent un peu trop tôt, eh ben, ça devient quand même quelque chose de formidable, d'incroyable, etc. Typiquement, je pense au fait de mettre que des prises USB-C sur la nouvelle gamme de laptop. C'était évidemment ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était le moment où il fallait le faire? C'était peut-être un poil trop. Pour les entreprises, il n'y avait pas l'option d'avoir la même machine, mais avec ne serait-ce que juste un port USB traditionnel. Et pour autant, bah, tout le monde est en mode ah ouah, c'est innovant, etc. Alors en fait, pour le moment, c'est juste extrêmement casse-couille et que effectivement, dans ne serait-ce que 6 mois, on n'en parlera plus parce que effectivement, la transition se sera faite et tout le monde sera très bien content, etc. Mais il y a un aura autour d'Apple qui fait qu'ils ont le droit de faire des trucs un peu borderline, un peu touchy, que d'autres marques n'ont pas le droit.
Vexant, enthousiasmant ou un mélange des deux, faites-nous part un peu de votre réaction dans les commentaires. Ce serait intéressant de prolonger le débat. Côté des smartphones, on peut rebondir sur les Pixel 2. Alors, on en a parlé largement dans le dernier épisode, donc on va pas réexpliquer là encore de quoi il s'agit. C'est juste que bah, y a des confirmations, hein, puisque ça y est, les tests ont pu être menés et commencent à sortir de manière, on va dire, complètement officialisée. Les tests photos des Pixel 2, et on sait que c'est vraiment les caractéristiques où on les attendait, où ils étaient très présents sur les premières générations de Pixel. Il s'avère évidemment que la photo est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre et d'un point de vue performance et restitution, on est dans quelque chose de très très bon. Et c'est vrai pour les deux, hein. Encore une fois, c'est à l'écho de ce qu'on disait sur ces appareils-là dans le dernier épisode, c'est que vous preniez un Pixel 2 ou un Pixel 2 XL, vous n'allez pas avoir de différence outre la taille de l'écran, sauf que c'est un petit peu le sujet qui a pour le coup fait écho ces dernières heures là où on parle des pixels, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y ait une bonne différence sur la qualité de l'écran du XL, paradoxalement, qui, alors, quand on pousse les tests et quand on les compare dans certaines situations, il s'avère qu'ils sont quand même beaucoup plus, granuleux, qu'il y aurait une espèce de voile un peu poussiéreux, qui serait aussi bien moins lumineux. Je reconnais que moi, dans mon expérience, j'ai toujours eu des mauvais souvenirs de la qualité des dalles et des écrans LG et que j'ai toujours été plutôt satisfait de Samsung. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des expériences peut-être différentes, nuancées. En tout cas, l'avenir est, à mon avis, radieux pour ces appareils. En tout cas, je leur souhaite, bien qu'ils ne soient pas dispo en France. Ils sont dispo au Canada? C'est un produit qui t'intéresserait?
Tout à fait, oui, oui. C'est pas un produit qui m'intéresse pour un certain nombre de raisons. Par contre, c'est sûr que je vais être envieux justement des gens qui vont l'avoir pour la fonctionnalité de photo, parce que je trouve que les photos sont vraiment bluffantes, surtout quand je vois des essais qui sont faits par des gens qui savent pas faire de photos. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, les journalistes ont ce défaut et cette qualité là qu'ils savent, la photo c'est un peu leur truc en général, ouais. Même quand c'est pas forcément au cœur de leur métier. Tout le monde n'est pas journaliste photographe, mais bon, même quand on écrit, on aime bien les photos se perfectionner, etc. Et donc bon, les photos qu'on voit dans la presse, voilà, il faut bien se rendre compte qu'elles sont prises par des gens qui s'y connaissent. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce qu'une grosse tanche peut sortir une photo à peu près correcte. Et ça a l'air que oui. Donc ça a l'air très cool.
Bon, à continuer et à surveiller, mais en tout cas, on vit une belle époque quand on aime faire de la photo, parce que vraiment, avec tous les appareils qu'on transporte, on a que l'embarras du choix. L'autre sujet du moment, et l'autre thème plutôt de cet épisode, ça va être la sécurité et la vie privée. C'est un thème un peu récurrent dans Tech Café. Dans les dernières heures qui se sont écoulées dans la préparation de cette émission, il y a une faille qui est arrivée, une nouvelle grosse faille. Crack, de par le nom de sa démonstration. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la manière qu'ont les appareils de se connecter par liaison Wi-Fi. Sommairement, votre ordinateur se connecte à votre box Wi-Fi avec toute une série de différentes étapes pour bien s'assurer que le mot de passe est bon, que la connexion est désirée, en gros que la connexion est légitime. Et il s'avère qu'il y a une faille qui est mise en évidence. Alors je vais essayer de vulgariser, puis peut-être que tu me complèteras, contrediras ou corrigeras Pierre-Olivier. Mais en gros, il y a à un moment une répétition d'une clé pour que l'un des deux appareils puisse la récupérer et y répondre. Et cette répétition, a priori, permettrait d'être captée si on se trouvait à proximité de là où se passe la tentative de connexion pour récupérer cette clé. Et donc accéder un peu en clair à l'ensemble des conversations qui pourraient être faites entre l'appareil et la box Wi-Fi. Alors déjà, est-ce que je raconte des grosses bêtises ou est-ce qu'on peut être plus exhaustif, plus précis sur la nature de cette faille? Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu l'aperçois? Est-ce que là encore, c'est, je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion pour des objets connectés, une faille de plus et il y a de quoi être blasé, ou est-ce que là, on est sur quelque chose de plus notable?
Alors, t'as très bien résumé. Ceci dit, je pense que c'est important aussi de noter un point important. C'est parce que il y a déjà eu des attaques validées contre le protocole WPA2, donc la sécurité du Wi-Fi. Mais celle-là, c'est la première qui ne se base pas sur un genre de devinette de mot de passe, de clé. C'est vraiment la première où techniquement on peut arriver sans rien connaître du réseau et rentrer dessus comme si c'était ouvert. Donc c'est quand même une faille majeure et importante. La plupart des acteurs ont réagi extrêmement vite, donc on pense à Apple, Microsoft, Google, etc. Mais il y a beaucoup d'autres systèmes, et tu fais bien d'évoquer les objets connectés, parce que là, par contre, niveau rythme de mise à jour, ça risque d'être assez catastrophique. Et c'est important aussi de souligner que c'est une faille qui est côté client, c'est-à-dire que c'est pas tellement au niveau du routeur que ça se passe, qui est finalement un élément du réseau que il y en a qu'un. Si on le patch, ça y est, tout le monde est content. Non, là, c'est vraiment au niveau du client, donc de n'importe quel device qui serait sur ce Wi-Fi là. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de monde à devoir mettre à jour. Pas juste votre téléphone, pas juste votre routeur. Il y a absolument tout ce qui est connecté à votre réseau. Et ça sera pas le cas.
Du coup, ça veut dire qu'on est en droit d'anticiper le fait que les Barbies connectées et les lapins crétins connectés qu'on trouvera au pied du sapin seront probablement fournis avec peut-être la faille pas mise à jour. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va être à surveiller. Alors, il faut quand même le mettre en perspective, parce que ça veut, enfin, pour exploiter cette faille, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être physiquement présent au niveau de, enfin, l'entourage de la portée du réseau Wi-Fi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à distance. Donc, j'imagine qu'il y a peut pas y avoir, si j'ai bien compris, la même manière d'exploiter cette faille comme on en avait eu pour faire, par exemple, des redirections d'attaque par déni de service, en faisant en sorte d'exploiter les objets connectés comme si c'était des zombies. C'est pas possible, ça.
Alors, Ça rend difficile les attaques à l'aveugle, de masse et totalement automatisées, c'est vrai. N'empêche que si vous êtes une entreprise, c'est quand même vraiment catastrophique parce que avec du bon matériel custom, on peut capter un Wi-Fi de très loin. On n'a pas besoin de le capter très bien, juste avoir quelques paquets qui passent de temps en temps permet déjà d'obtenir des informations que qu'une entreprise veut pas laisser sortir à l'extérieur. Dans une ville avec des bureaux d'entreprise qui sont rassemblés dans un genre de centre-ville, les impacts sont vraiment énormes. Je veux dire, on capte des réseaux d'une centaine de,
ouais.
d'une centaine d'entreprises qu'on voit pas visuellement. Je veux dire, moi, je peux très bien aller louer un bureau dans un immeuble qui est le bloc d'à côté. Tu le sauras jamais que je suis en train d'espionner ton entreprise. Donc c'est quand même grave. Mais effectivement, c'est pas comparable à des choses qui pourraient se dérouler en mode automatique, comme des attaques de déni de service ou des choses comme ça.
Bon, le directeur de l'ANSSI en France, en tout cas, s'est exprimé. Il est assez pessimiste. Il essaie évidemment de prendre du recul et attendre de voir un petit peu comment vont se dérouler les choses. Il est assez pessimiste. Il est assez convaincu que c'est quelque chose qu'on va se traîner pendant pas mal de temps. Et effectivement, on est en droit d'imaginer que c'est pas demain la veille que tout sera corrigé. En tout cas, sur les grands acteurs, on peut faire le point rapidement. Hein, mais en tout cas, tout ce qui est les OS que tout le monde connaît, les Windows, Android, iOS. Et j'en passe et des meilleurs sont évidemment là en passe d'être corrigés, donc c'est pas tant là qu'est le problème, mais encore une fois peut-être plus au niveau des objets connectés. Collecte de données personnelles, voilà un sujet qui peut en faire bondir plus d'un, à juste titre sans doute. Du côté de chez OnePlus, il y avait une révélation qui avait été faite du fait que justement le constructeur de smartphone qui est derrière les OnePlus, qui propose d'ailleurs le système d'exploitation OxygenOS, ou en tout cas la surcouche d'Android OxygenOS, récupérait en continu des données des smartphones de ses clients, et il y en avait beaucoup des données, il y en avait des informations relatives évidemment au smartphone, il y avait son numéro email, il y avait le numéro de série, les connexions wifi, les connexions bluetooth, et une collecte de données qui était non seulement permanente mais en plus qui n'était pas anonymisée. Alors évidemment ça a fait bondir et il a fallu que tout simplement la marque réagisse. Alors ils ont fait un petit mea culpa, hein. Ils ont dit alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait un mea culpa, mais ils n'ont pas fait un mea culpa sur la quantité de données qui était collectée ou le simple fait de collecter de la donnée, mais ils se sont émus du fait qu'effectivement, les utilisateurs étaient en droit de savoir à quoi servait cette collecte de données. Et donc c'est là où ils proposent des évolutions, eux. Ils disent non, mais la collecte de données, de toute façon, ça se fait partout. C'est juste qu'il faut qu'on tienne au courant nos utilisateurs de à quoi ça sert. Alors évidemment, ça fait un peu bondir, et en même temps, c'est notre vision peut-être extérieure à nous, ou en tout cas à moi, qui n'est peut-être pas dans les méandres des fonctionnements des appareils. Toi, Pierre-Olivier, qui a la chance de savoir comment fonctionnent un petit peu plus les appareils, est-ce que c'est vrai que la collecte de données personnelles sur les appareils est légion, mais il faut la faire correctement, notamment l'anonymisant et en tenant au courant les personnes des données qui sont collectées, ou est-ce que on se fout de notre gueule?
Alors, c'est totalement tous les appareils qui mouchardent absolument tout ce qu'on fait. Alors, il y a zéro doute. Et en particulier, les boîtes les moins douées en software remontent des informations qu'elles n'ont pas besoin sans parfois même faire vraiment exprès. Et effectivement, l'anonymisation des informations, c'est un dans enfin, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas la compétence. C'est un peu exagéré, mais il n'y a pas le réflexe métier,
la sensibilité.
Exactement, de se dire bon, moi, j'ai besoin de savoir ça sur mes utilisateurs pour vérifier que ce que j'ai fait se passe exactement comme je l'avais conçu. Je vais prendre juste cette information-là parce que c'est un bon indicateur. Non, là, on est vraiment dans des gens qui disent bon, faut que j'ai les logs. Dans les logs, il y a tout. Et effectivement, bon, j'en ai vu passer un paquet. Des téléphones qui font ça, et pas juste OnePlus. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'on est un petit peu plus à une époque où les gens sont sensibilisés à ce genre de choses. Donc, les entreprises vont faire un petit peu plus attention. Je pense aussi que les constructeurs font de plus en plus de progrès sur le software et la façon de le concevoir et donc de remonter des informations. Mais bon, OnePlus, c'est clairement pas les seuls. Moi, j'ai quand même tendance à les rejoindre. C'est pas pour les défendre plus que ça, mais remonter des informations, ça reste quand même quelque chose d'important. N'empêche que avoir une représentation statistique, ça suffit. Il n'y a pas besoin de remonter les informations de tout le monde. Donc, tu pourrais très bien demander aux gens s'ils sont volontaires pour envoyer leurs informations de debug, etc. Effectivement, prendre soin d'anonymiser ces informations-là, parce qu'on n'a pas besoin de tout en tant que développeur pour comprendre quels peuvent être les problèmes, les bugs, les problèmes de conception auxquels les utilisateurs font face. Donc voilà, il y a du progrès à faire. Je pense que on est dans la bonne direction au global, mais il y a beaucoup de marques qui sont à la traîne.
Bon, donc une fois
de
plus.
Et de développeurs d'applications, parce que bon, là on parle de OnePlus, mais y a toute la flopée d'apps qu'on télécharge derrière qui fait pareil.
Bien entendu, bien entendu. Et là, pour le coup, les autorisations dans les systèmes d'exploitation, c'est pas parfait parce qu'on a beaucoup de questions qu'on se pose et puis tout le monde n'est pas forcément conscient des réponses qu'on donne. Quand même, il y a la clé qui est donnée pour pouvoir se poser la question un peu intelligemment. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des propositions à OnePlus de demander l'autorisation au lancement au départ de l'appareil, puisque là, c'était même pas le cas. Donc une vision, encore une fois, hein, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il faut savoir aussi prendre un peu de recul et finalement comme quoi on peut prendre aussi les informations comme en partie vraies. C'est vrai, la collecte de données fait partie des standards aujourd'hui, mais il faut les faire assez bien et en être sensibilisé. On passe à une rubrique qui va concerner Facebook, alors deux volets qui finalement ne sont pas directement liés du côté de Facebook. Un côté plus en lien avec l'implication qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, hein, l'implication de Facebook et des publicités de Facebook dans le cadre des élections à la dernière présidentielle américaine. Et Facebook tente de réagir. Alors c'est vrai qu'on les sent assez régulièrement en train d'annoncer des choses par rapport à des évolutions d'algorithmes, par rapport à la mise en place de nouvelles équipes, par rapport à une somme de choses qui paraissent finalement dans le temps assez, tout à fait relativement inutile par certains aspects, parce qu'on n'a pas l'impression que ça va complètement régler le problème. Évidemment, ça ne peut faire qu'améliorer les choses, de se poser les bonnes questions et de se donner plus de ressources. Mais la nouvelle tentative, c'est du côté de Facebook, c'est de recruter des personnels qui seraient accrédités au niveau de l'État. Donc l'idée, c'est d'aller tout simplement recruter des personnes qui seraient versées dans les secrets défense, notamment au niveau de l'État. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que quand une personne est recrutée de cette manière-là, elle perd ses accréditations, mais il semblerait qu'aux États-Unis, il y a un moyen de faire prolonger cette accréditation. Alors, là encore, est-ce qu'on va avoir une vision complètement manichéenne des choses? Il y a deux façons de réagir. On peut se dire, bah tiens, c'est bien, Facebook rentre dans une démarche active pour essayer d'anticiper un certain nombre de choses, donc c'est cool, c'est forcément bien pour le fonctionnement du réseau social et donc par extension des conversations qui y sont menées. Et de l'autre côté, est-ce que ça fait pas un peu peur de se dire que Facebook se donne de personnes accréditées et qu'il y ait des liens de plus en plus étroits entre, on va dire, les secrets défense de l'État américain et le réseau social? J'aime bien te solliciter, Pierre-Olivier, sur le sujet parce que t'es un utilisateur de Facebook et donc tu sais de quoi on parle, contrairement à d'autres personnes qui que je ne nommerai pas mais qui ne sont pas toujours à même de pouvoir réagir sur le comment ça marche. Comment tu perçois ça? Est-ce que finalement ça matière à réaction? Moi, ça me fait lever un sourcil quand même. Ça m'interpelle, cette histoire.
Moi, ça m'emmerde pour un paquet de raisons. D'abord parce que, objectivement, moi, je ne suis pas citoyen US. J'en ai rien à carrer des US. Et je n'ai pas envie que ma vie elle soit régie par des lois, des schémas de pensée américains. Enfin, Facebook, je l'utilise parce que ça remplit des usages et des fonctions que j'aime bien, mais je vois pas à quel moment quelqu'un qui est accrédité secret défense aux États-Unis est légitime pour moi, dans ma vie, pour encadrer ce qui se passe, être sûr que je suis pas en train de me faire désinformer par les Russes ou les machins, etc. Enfin, c'est pas mon problème. Et là, on rentre, d'un point de vue macro, on est sur une espèce de grosse américanisation de la société moderne, où les autres pays ont pas leur mot à dire, puisque de toute façon tout est piloté des États-Unis, etc. Et l'autre truc aussi, c'est que bon, évidemment, comme tout ce qui se passe sur Internet, ça va 10 fois plus vite que si ça se passe. Enfin, je suis gentil, ça va plutôt 10 000 fois plus vite que si ça se passait dans le monde matériel. N'empêche que la désinformation, la propagande, les fausses informations, etc., c'est ni nouveau, ni uniquement sur Facebook, ni un problème de médias. En fait, c'est essentiellement un problème d'éducation, pour commencer, de niveau intellectuel. Et attention, hein, je dis pas ça de façon critique et méchante, en mode « Ah, c'est juste les crétins qui se font avoir. » C'est pas du tout ce qu'on se fait tous avoir, mais on se fait pas forcément avoir au niveau, surtout, forcément la même durée de temps. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on a quand même inculqué un esprit critique, etc., il peut peut-être se faire avoir à un moment donné, mais il va se rendre compte plus vite, peut-être la semaine d'après, le mois d'après, je sais pas, mais en fait, il s'est fait avoir par des préjugés ou pas. Donc c'est pas que ça marche moins bien, c'est que ça reste moins longtemps. On peut plus facilement démonter des trucs et revenir à une situation de un peu plus normale. Et donc ce problème il est global et il est accentué aux États-Unis et dans d'autres pays, puisque bien les débiles ça consomme beaucoup, donc faut qu'on en fabrique plein. Et donc forcément, bon, quand cette fabrication de débiles se retourne contre le système politique en place, c'est un petit peu moins drôle. J'ai pas envie, pour autant, même si je reconnais le problème et son importance et le fait que ce soit absolument critique, j'ai quand même pas envie que Facebook me dise quoi lire, quoi penser.
Donc si je résume, toi ta position, c'est de dire tu préfères encore que Facebook existe avec ses défauts, parce que ses défauts sont finalement pas nouveaux, ils ont juste une proportion différente par rapport aux défauts que peuvent avoir les échanges sociétaux classiques, enfin dans la rue ou derrière la machine à café. Tu préfères ça au fait qu'il y ait des liens entre l'État, on va dire, et Facebook. Et en même temps,
surtout l'État, en fait. C'est dans le genre. On est en train de lutter contre une propagande d'État, en l'occurrence russe, avec un autre État, alors qu'en plus, à la tête de ce même État, il y a une personne qui a peut-être touché quelques millions de l'autre État dont on parlait précédemment. Enfin, il y a zéro légitimité. Il y a absolument zéro légitimité. Il faut faire quelque chose à l'échelle de Facebook. Mais c'est certainement pas d'aller convoquer des gens qui ont un lien étatique. Et puis, en plus, moi, je trouve ça effarant que personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'on branle à l'école.
Ça c'est effectivement un problème quand il m'arrive de présenter des usages de Facebook ou de manière générale les usages sur les réseaux sociaux. On me sollicite souvent pour me dire et alors les fake news, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est l'école, quoi. J'ai toujours tendance à répondre ça, mais c'est vrai que ça fait toujours réagir bizarrement. Ouais, écoute, moi je suis quand même en train, alors j'ai la même réaction que toi au départ, j'essaye quand même de temporiser ce type de réaction que je pourrais avoir. Je me dis finalement, est-ce que on n'a pas une mauvaise perception de ce que c'est qu'une accréditation? Est-ce que finalement une accréditation, c'est pas une série d'informations qui relève de la vérification de la fiabilité d'une personne, de pouvoir aussi avoir un certain nombre, tu vois, de compte-rendu d'informations? Et est-ce que finalement Et de toute façon, on pourra pas répondre à la question. Mais il y a vraiment des. Est-ce que finalement, il y a vraiment des risques, quoi, pour un usage tel que celui sur Facebook? Moi, j'ai tendance à penser qu'on a peut-être une méconnaissance de ce que sont les accréditations, mais je me trompe peut-être.
Alors, c'est tout à fait pertinent comme raisonnement. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont accrédités et pas que des fonctionnaires, loin de là. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment être une minorité. Ouais. Parmi le personnel accrédité et puis je veux dire, toi et moi, on pourrait un jour être amené à être accrédité par l'État américain pour X ou Y raison, parce qu'on bosse dans une boîte qui fait tel ou tel truc, peu importe, c'est vrai. Mais moi, au-delà de qu'est-ce que ça représente vraiment, c'est surtout la symbolique. C'est genre, ah, c'est bon, il est accrédité par l'État américain, donc mais donc quoi, en fait? Enfin, c'est ça qui vient me chercher le plus, c'est cette légitimisation de l'État US comme, je sais pas, c'est l'Empire romain, quoi, c'est l'absolu, la démocratie vient par là et c'est la source de toute lumière. Ben, je crois pas. Enfin, ouais. Et jusqu'à preuve du contraire, sur un paquet de sujets, c'est plutôt les poubelles du monde. Donc j'ai vraiment du mal avec ça.
Bon, bah écoute, de toute façon, on continuera à suivre s'il y a des évolutions par rapport à ce genre de d'innovation, ou en tout cas de tentative d'évolution de la part de Facebook par rapport au fonctionnement et les liens avec l'État. On continue à parler de la grande famille Facebook avec Oculus, puisqu'on a eu des petites annonces du côté de chez Oculus, et c'est toujours intéressant de se pencher sur ce type d'annonce, puisqu'on est quand même sur un univers qu'on nous promettait comme étant être la révolution de demain, que moi personnellement, j'attends, non pas dans le sens de l'impatience, mais plutôt en me disant que je pense que ça n'aura pas la portée qu'on s'imagine que ça puisse avoir, mais on verra. On va d'ailleurs peut-être en parler tous les deux. En tout cas, quelles sont ces annonces? La baisse d'une part du package de l'Oculus Rift avec les fonctionnalités des petits appareils touch, les petites manettes, à $399 et donc 449 €, ce qui en gros le met au même niveau que le PlayStation VR, et bien moins cher que le HTC Vive. Donc ça, c'est une première chose, la démocratisation une tentative de démocratisation avec une baisse de prix. Il y a aussi l'Oculus Go qui est là encore une fois une tentative de démocratisation avec de la VR accessible pour un prix défiant toute concurrence, puisque ce serait au niveau de $199, et surtout sans contrainte, puisque on aura moins de problèmes au niveau des fils, et puis ça dépendra pas d'un PC, d'un smartphone ni de câble encombrant. Donc j'ai vraiment hâte de voir pourquoi est-ce que tout le monde prendrait pas cet appareil, sans doute parce qu'il y a des déficits au niveau de la qualité à voir. Et puis des petites nouvelles du côté de chez Oculus Santa Cruz, qui est en gros le top du top, qui risquerait d'arriver demain. Oculus nous a montré les manettes qui accompagnent le casque, et a priori là on serait dans le nec plus ultra de l'expérience de la VR, sauf que de la réalité virtuelle. Je mélange VR et VR maintenant, mais ce serait une expérience donc du top du top. Alors moi ça m'interpelle beaucoup, parce que comme je le disais, je suis pas convaincu par la réalité virtuelle, je suis pas convaincu par les propositions qui nous sont faites et la façon dont c'est dessiné, et on est en train de nous dire non mais implicitement, hein, c'est un problème de prix, donc on va vous donner des trucs moins chers, et ça peut être aussi un problème de qualité, donc on va continuer à vous proposer des dispositifs haut de gamme. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça révolutionne les usages. Alors Pierre-Olivier, quelles sont tes impressions sur l'usage de la réalité virtuelle? Qu'est-ce que tu anticipes demain en termes d'usage? Puis à titre individuel, est-ce que t'as testé? Est-ce que ça t'a convaincu? Je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de t'entendre sur ce sujet.
Donc effectivement, la réalité virtuelle, c'est quelque chose que j'ai déjà testé avec le HTC Vive. J'ai trouvé ça quand même, c'est vrai, assez bluffant. Cela dit, moi, je joue plus beaucoup, donc je suis pas un consommateur. Et en plus de ça, au-delà du jeu, pour lequel je vois vraiment un intérêt certain, j'ai du mal à me projeter dans d'autres usages avec ce genre d'appareil. Je peux comprendre qu'à un moment donné, peut-être quand on aura fait suffisamment de progrès là-dessus, on puisse faire des réunions à distance en réalité virtuelle ou ce genre de choses. Mais pour moi, ça passera absolument pas par des trucs qui coûtent 600 boules, qui sont énormes, Je veux dire, ça fait des années que on préfère utiliser des lignes téléphoniques caca pour faire des réunions. Pourquoi? Parce que elles sont plus sympas posées, plus moins chères et plein de choses comme ça. Est plus facilement intégrable au système informatique de la boîte. Si on se parle d'usages extrêmement spécifiques comme les opérations d'achat ou ce genre de choses, comme je l'ai un peu déjà dit dans la phrase, c'est ultra spécifique et donc il y aura du matériel ultra spécifique. Pas HTC, ce ne sera pas Facebook. Etc., etc. Donc voilà, pour moi le sujet il est condamné à être connexe à celui du jeu vidéo et pour le coup je pense que avant de bosser sur les différents modèles, même s'il y a plein de choses à corriger, à améliorer, surtout sur le catalogue de titres qu'il faut bosser et qu'il faut mettre les bouchées doubles.
Ouais, donc les usages, j'ai l'impression qu'on rejoint en tout cas tous les deux le même avis sur le sujet. Donc en tout cas, dites-nous si dans les commentaires, si jamais vous êtes plus convaincus que nous et si vous voyez des usages qui pourraient arriver beaucoup plus convaincants. Il y a la téléportation entre guillemets de Mark Zuckerberg à Porto Rico. Vous pourrez retrouver ça assez facilement sur le web. Moi, au départ, la première démonstration de ce type d'usage qu'avait fait Mark Zuckerberg m'avait interpellé. Je m'étais dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Puis en fait, bon, quand même, avec le recul et dans le temps, on parle par exemple des réunions à distance. Aujourd'hui, la visio, ça marche très très bien avec une simple caméra et un écran dans plein de boîtes. Et donc, on est en droit de se demander.
Et encore, la plupart du temps, on désactive la vidéo. Hein.
Oui, en plus on reste sur le dos audio. Ouais, tout à fait.
En fait, regarde si on parle de ne serait-ce que genre nous podcast par exemple, on pourrait s'appeler par téléphone, la qualité audio elle serait probablement bien meilleure. On le fait pas parce que on fait le sacrifice de qualité pour la praticité de l'enregistrement, puisque par téléphone ça serait plus difficile. De réaliser l'enregistrement, ce qui serait en analogique et machin et plein de choses. Au bureau c'est pareil, on fait toujours le sacrifice de un peu voire parfois beaucoup de qualité au bénéfice du fonctionnel. Donc
ouais. Là, il y a des raisons de coût aussi.
Exactement. Donc ça s'insère assez mal quoi.
Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la réalité virtuelle qui. Mais, par contre, un point que tu soulèves qui est important, effectivement, je mets pas en perspective les jeux. Hein. Je suis persuadé qu'il y a des expériences ludiques qui sont formidables en réalité virtuelle, et c'est sans doute l'aspect qu'il faut creuser. Encore faut-il avoir des expériences de jeu proposées intéressantes. On va passer à la rubrique en bref. Alors c'est la période un petit peu chaude et tumultueuse à double titre peut-être pour Twitter, notamment suite à l'affaire Weinstein. Je prononce peut-être d'ailleurs très mal le nom hein, Weinstein. N'hésitez pas à me corriger sur les prononciations. En tout cas, qui a été interpellé sur plusieurs aspects de harcèlement auprès de la gente féminine. Il y a eu une grande controverse qui a eu lieu, notamment parce que j'ai perdu le nom de l'actrice. Je sais pas si tu pourras me la donner, Pierre-Olivier.
Je suis très mauvais là-dessus, désolé.
C'est l'actrice en plus de Charmed. Bon, vous êtes plein sans doute à me taper dessus parce que vous savez qui c'est. Et vous avez raison, c'est Paige dans Charmed, mais elle a fait d'autres choses aussi. Hein, qui en tout cas défend vigoureusement en tout cas la position, évidemment, des femmes qui sont victimes de harcèlement. Et qui, dans le cadre des échanges sur Twitter, s'est vue bannir temporairement par Twitter. Alors évidemment, elle a balancé sur Instagram cette éviction de Twitter, même temporaire. Et donc, il y a eu une levée de bouclier de la part des personnes qui la suivent. Et c'est bien compréhensible. D'ailleurs, premier enseignement, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut réagir en écartant quelqu'un qui utilise un réseau social, mais finalement, les voies de rebond sont nombreuses aujourd'hui entre un Facebook, un Instagram ou probablement d'autres canaux. Donc, je me dis vraiment, on vit des heures complexes pour la censure, mais bon, c'est une petite parenthèse. Et en tout cas, il y a eu cette action qui a fait couler, elle a encore beaucoup d'encre, et Twitter s'est vu obligé de réagir pour expliquer un petit peu la manière dont ils réagissent au comportement qui pose problème sur Twitter. Mais oui, on a quand même une situation d'une personne qui se dit harcelée sexuellement et qui se défend de la manière qu'elle souhaite et qu'elle peut d'ailleurs, et qui se voit écartée du réseau social pendant un moment, et à côté de ça, il y a un monsieur comme Donald Trump qui peut lâcher plein de trucs et qui qui, bah, lui, va pas se faire bannir. Donc, il y a quand même des remous que ça peut créer. Pour la petite anecdote, la raison, selon Twitter, pour laquelle elle s'est fait bannir, c'est qu'elle aurait lâché un numéro de téléphone et donc des coordonnées personnelles de personnes qu'elle a criminées. Alors, on va pas redonner tous les détails là, et puis surtout, l'objectif est pas d'être très précis sur cette histoire. Je pense que ce sera difficile de le faire dans le cadre de cet échange par podcast, mais juste pour dire que Twitter réagit en expliquant quelles sont les conditions avec lesquelles ils vont réagir pour désormais bannir masquer un certain nombre d'informations ou d'utilisateurs dans Twitter. Est-ce que tu continues à utiliser Twitter, Pierre-Olivier? Je te vois moins présent, et est-ce que tu trouves que, comme moi, ça sent pas bon les évolutions et les explications et la com de manière générale sur Twitter?
Moi, je n'y suis plus depuis longtemps parce que je trouve qu'il n'y a que des bots. Je veux dire, même les comptes gens, en fait, c'est souvent des tweets automatiques, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Les quelques tweets que je fais, en général, c'est pour me plaindre à des marques parce que par ce genre de canaux que d'appeler King Hotline, où il n'y a jamais personne qui répond. Et c'est pas mal les seuls usages que j'en ai. C'est une plateforme que je trouve super intéressante, et en plus de ça, bon, je trouve que clairement ils sont pas raccord avec leur propre truc. S'ils suivaient leurs propres règles, le président actuel des États-Unis n'aurait pas de compte Twitter.
Ouais.
Et puis là, bah, on a une personne qui a fait effectivement quelque chose qui contrevenait aux règles. Au lieu d'éditer le message ou quoi, elle s'est fait bannir. Je trouve ça un peu curieux. Personnellement, j'ai contrevenu un paquet de fois, je me suis jamais fait bannir. Et en plus de ça, là, on parle d'une personne nue, qui est soutenue. Enfin, je veux dire, ses actions sont visibles. Et donc, l'erreur a pu être corrigée. Mais enfin, et c'est con. On parle d'autres personnes qui auraient très bien pu avoir la même démarche et avoir la même réaction de la part de Twitter et se faire bannir. Bah, pour ces personnes-là, ça serait terminé. Il y aurait pas de rétablissement du compte, il y aurait pas de scandale. Enfin, merde, quoi. C'est un règlement. Puis c'est le même pour tout le monde, que tu t'appelles Donald ou Picsou. Soit t'en as pas, et puis va chier, en fait. Tout simplement. Non, mais c'est un peu énervant. À un moment donné, les règles, c'est les mêmes pour tous et elles doivent s'appliquer pour tous.
Ouais, ouais. Il y aurait tellement de problèmes réglés si jamais on pouvait éditer un tweet. Mais bon, on est en 2017, c'est pas encore possible. Côté des autres applications de messagerie, parce que c'est vrai que Twitter, j'arrive même plus à le classer comme un réseau social, hein, c'est soit une application d'information, comme ils le classent eux-mêmes dans les magasins d'applications, soit un système de messagerie, mais je trouve qu'il y a les vertus sociales qui sont plus vraiment là. Et en tout cas, il y a du côté des applications de messagerie, Telegram, qui en gros c'est cet équivalent sur des fondements beaucoup plus libertaires mais équivalent à WhatsApp. J'ai quelques utilisateurs qui l'adorent autour de moi, qui vit des heures difficiles, notamment en Russie, pourtant un berceau proche de des concepteurs de l'application, et c'est donc Pavel Durov qui est à la tête de Telegram et de l'idée de Telegram, qui fait l'objet de pas mal d'attaques par le gouvernement russe, et notamment le fait que il y en a marre que Telegram chiffre les conversations. C'est simple, maintenant il va falloir donner les moyens au gouvernement russe de pouvoir déchiffrer les conversations qui circulent sur Telegram, notamment de la part des Russes. Alors bon, il a beau dire, lui aussi, hein, comme à chaque fois qu'on incrimine ce type de technologie, c'est pas possible de vous donner les moyens de lire les contenus qui sont chiffrés de bout en bout, et il est hors de question qu'on renonce au chiffrement de bout en bout. Donc, notre cher monsieur Durov s'est fait attribuer une amende de 800 000 roubles, donc un peu plus de 11 000 euros, ce qui me paraît tout à fait honorable, on va dire, à l'image d'une grosse entreprise, mais ce qui est quand même significatif, évidemment, à l'échelle d'un être humain. Mais par contre, il n'a pas été encore tranché le fait de définitivement bloquer Telegram en Russie. Ça laisse quand même songeur. Est-ce que tu penses, Pierre-Olivier, qu'un jour, on va avoir des gouvernements, même en Russie, même en Chine, peut-être même ailleurs, qui comprendront que les messageries chiffrées de bout en bout, c'est pas le mal, c'est frustrant certes, mais c'est pas le mal, et que surtout, bah, on n'y peut rien. Tu crois que c'est possible, ça?
Je ne pense pas.
Bon.
ça me paraît incompatible avec la fonction, en fait.
Ça fait partie. En fait, on serait trop surpris si c'était le cas. Bon. Elon Musk s'est prononcé sur les plans qu'il a de nous inviter à vivre plus tard sur Mars. Et ce qui est assez curieux, c'est que c'est la première fois que je vois notre monsieur Musk annoncer des choses qui tendent à être moins excitantes qu'avant. Donc, en gros, il dit que ses plans de développement sur Mars sont toujours les mêmes, qu'il a toujours autant d'ambition, mais il voudrait dire qu'ils vont assurer l'infrastructure de base. Alors moi, j'ai eu du mal à interpréter un petit peu cette présentation. Est-ce que il faut le voir comme étant... Non, mais en fait, Guillaume, t'as pas compris, Elon Musk, en fait, il veut vraiment faire tout ce qui est clé en main pour vivre sur Mars, qui est quand même énorme. Et au contraire, il y a peut-être d'autres personnes qui vont réagir en disant, bah Guillaume, non, mais si, t'as raison, moi aussi, je trouve que il commence peut-être... pour une fois, à lever le pied sur ses ambitions. Je sais pas si t'as suivi ça, Pierre-Olivier, si t'as un avis sur la question. Comment tu le vois, Papa Musk ?
Moi, pour le coup, c'est raccord avec la vision que j'en avais. Je trouve que d'un point de vue humain, ça serait pas intéressant si SpaceX et autres compagnies d'Elon faisaient tout. Toutes les infrastructures et donc tous les liens sociaux sur une colonisation sur Mars. Je pense que l'infrastructure de base, bah, c'est nécessaire tout simplement juste pour que les gens vivent, enfin survivent. Mais ça me paraît quand même important que justement il y ait des choses qui soient fournies par d'autres entreprises. Et je veux dire un mot qui est bizarre dans ce contexte, mais les entreprises locales. Donc c'est-à-dire des gens sur place, sur Mars, pas genre Google ou Facebook ou des entités qui existent chez nous et qui sont pilotées gentiment depuis un environnement où on respire, on a de l'eau et compagnie. Je pense que c'est important que les personnes qui partiront, elles aient aussi des plans, une certaine volonté d'établir quelque chose qui va servir à plus que eux. Donc ça peut être, je sais pas, la purification de flotte ou n'importe quoi. Il y aura de toute façon littéralement tout à faire. Moi, mon idée de l'établissement d'une colonie, elle est là-dessus quoi. Elle est pas avec une entreprise type cyberpunk qui fait tout dans la vie des gens quoi.
Tu sais, avec du recul, quand tu parles de ça, bon déjà, juste pour dire que déjà t'es raccord avec tes positions, on va dire d'ouverture et de chacun qui contribue à sa manière à un écosystème de vie. Donc tout ça, c'est très raccord sur ton discours. Je pense aussi que c'est raccord avec les discours d'Elon Musk. Il y a quand même un truc quand je prends un petit peu de recul sur cette démarche. Est-ce que c'est bien sain? D'un point de vue humanité, et là on sort peut-être un poil de Tech Café, quoique, est-ce que c'est bien sain d'un point de vue humanité de mettre autant d'énergie, autant de ressources, autant finalement même d'argent à aller développer la race humaine sur Mars, dans lesquels il y a, et c'est ce qui m'a fait tilter, c'est quand t'as dit il y a tout à faire, est-ce qu'il serait pas plus simple de faire bien sur Terre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire on agrandit la pièce sans trop se poser la question de comment on vit dans la pièce qui était en petit format au départ. Je sais pas si je suis clair.
Si, très clair. Moi, j'ai tendance à dire que on est trop nombreux pour faire bouger les choses et pour faire des trucs bien. Je pense que c'est un petit peu comme en économie. Les grosses boîtes se font toujours avoir un jour ou l'autre par une boîte beaucoup plus petite, beaucoup plus véloce et qui livre des produits beaucoup plus complexes et beaucoup plus adaptés au marché. Bah là, c'est un peu pareil. Avec 7 milliards d'humains, on est lent. Le changement, on a eu une inertie incroyable. Et finalement, est-ce que un monde où il y a, je sais pas, 100 000 personnes, serait pas plus intéressant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique. Voilà, c'est je pose la question, bon, avec une partie de la réponse dedans. Je suis un peu sur ces questions-là, mais en soi, je veux dire, t'as raison. Enfin, je veux dire, on va et pour des générations encore nombreuses. Donc, si on pouvait essayer de se bouger un peu les miches pour faire des trucs qui sont valides, qui seront encore valides dans les centaines, voire les milliers d'années à suivre, ça serait bien aussi.
Ouais, et puis pour en plus pas reporter le problème ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé dans Tech Café. On va parler un peu porno parce que c'est bien connu, le porno c'est la voie qui permet de démocratiser les nouvelles technologies. Ça a été le cas pour les VHS, pour les DVD. Et c'est le cas aussi, allez, je troll, hein, pour le machine learning maintenant, il y a tout simplement Pornhub qui s'appuie sur des technologies de machine learning pour tout simplement aider à classifier les vidéos porno qui sont hébergées sur le site. Et donc ils ont passé une petite moulinette sur toutes ces vidéos pour classer les différentes catégories de personnes qui interviennent sur les différentes positions et sur les différentes activités qui y sont menées. Est-ce que tu avais vu passer le sujet? Est-ce que toi aussi t'es convaincu que c'est un usage enfin noble du machine learning? Toute blague mise à part, ça introduit pas des biais d'ailleurs qui font écho à ce que tu avais indiqué sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle?
Ah si, totalement. Dans le genre, on va automatiser les préjugés de la terre entière. Le porno, il se place quand même pas mal là. Je suis surpris puis pas surpris parce que je suis surpris parce que je pensais que c'était pas en fait, tout simplement.
Oui, c'était déjà
et, le cas. Et je suis pas surpris puisque bon, le siège de Pornhub, RedTube et toute la galaxie de MindGeek est à Montréal et qu'à Montréal il y a en ce moment énormément d'argent autour de l'intelligence artificielle. Samsung, il y a un labo de recherche. Microsoft a racheté une boîte pour un sacré paquet. Apple, il y a une partie de la synthèse vocale de Siri, puisque c'est une nuance qu'il a fait. Donc bon, il se passe énormément de choses en termes d'intelligence artificielle ici, et forcément, vu que ils font partie de l'écosystème IT de la ville, patient qu'ils investissent là-dedans aussi.
On va parler d'une application qui a le mérite d'être originale et en plus d'avoir probablement le nom d'application le mieux trouvé au monde. C'est l'application Nude, N-U-D-E. Qu'est-ce qu'elle fait cette application? Et ben tout simplement, elle va scanner vos photos, elle va les passer en revue, les photos que vous avez prises sur votre smartphone, et elle va identifier les photos un peu coquines que vous pourriez ne pas avoir envie de garder en libre accès et en libre visibilité dans votre bibliothèque photos. Donc comme ça il va les identifier, les récupérer, les cacher, et du coup vous pourrez supprimer de votre pellicule photo les photos qui pourraient prêter à confusion, sinon causer problème dans votre vie personnelle, et vous aurez donc plus qu'aussi penser à vider la corbeille du coup des photos que vous aurez supprimées. L'idée est intéressante. Dans les tests, ce qui est un peu gênant, c'est que ça a pas l'air si bien marché que ça. C'est-à-dire qu'ils détectent des trucs comme sensibles qui ne sont pas sensibles, et il y a certains trucs sensibles qui passent à la trappe. Dommage. En tout cas, j'étais très surpris de ce type d'usage, et vraiment on vit une belle époque pour le machine learning appliqué à ces trucs un peu tendancieux, je trouve. Ça prête pas de réaction, ça, Pierre-Olivier.
Non.
Allez, en très bref, juste pour dire que s'il y a bien un service qui n'avait pas évolué chez Google, c'est Google Agenda sur la version web desktop. C'est désormais chose faite. Là, ça, c'est en train de passer. Je comprends pas ce qui a mis autant de temps, mais on va enfin avoir Google Agenda en Material Design. Donc ça, c'est super cool. Et puis un petit mot pour remettre un petit peu de sérieux dans tout ça, pour dire, j'ai vu passer cet article aujourd'hui et ça me faisait là encore écho à des conversations qu'on avait pu avoir dans d'autres épisodes de Tech Café. Il y a une sénatrice qui a commencé à être fortement interpellée de la manière dont sont signés les contrats avec Microsoft par l'armée française, et finalement il semblerait que ce soit quand même très très flou la manière dont sont menées ces signatures de contrats. Alors, j'ai deux réactions là encore qui me viennent en tête, qui sont assez contradictoires, et j'ai bien envie que tu puisses conclure cette rubrique en bref en me donnant ton point de vue. Soit d'un côté, on peut se dire bah évidemment que toute la nature des contrats qui sont signés par l'armée avec Microsoft ne sont pas divulgués au grand public parce qu'il y a peut-être un peu des trucs sensibles dedans et que ce serait mieux de pas donner trop d'infos. Et d'un autre côté, est-ce que ce serait pas quand même mieux que l'armée, au même titre qu'on a pu avoir cette discussion par le passé sur des domaines telles que l'éducation, puisse se baser sur des technologies un peu plus libres pour des trucs aussi clés que l'armée. Quel est ton point de vue là-dessus, Pierre-Olivier ?
Ben, pendant longtemps, la doctrine de la Grande Muette, c'était quand même d'avoir que de l'équipement qui est soit produit à l'interne, soit produit par des entreprises françaises avec un lien de dépendance, soit capitalistique, soit tout simplement d'influence très fort avec l'État français. C'est plus le cas, mais ça reste quand même plus officiel. Ça reste quand même un principe fort. Je comprends pas que ça soit pas appliqué à l'informatique. Ça c'est le premier truc. C'est quand même pas super compliqué de se doter d'un OS sur une base Linux ou BSD ou n'importe et travailler avec. Ça t'évite d'avoir des contrats extrêmement compliqués et à rallonge parce que juste pour donner un exemple, en plus si c'est le Mirage ou c'est la Rafale, en tout cas peut-être les deux d'ailleurs, mais l'un des avions de chasse de l'armée de l'air est équipé pour une partie de ses systèmes d'une version spéciale de Windows exprès pour l'embarquer. Ben évidemment le truc c'est que l'avion de chasse il a une durée de vie beaucoup plus longue que le logiciel, donc il y a nécessairement un maintenance avec les patchs de sécurité, tout ce qui va bien pour cet OS. Et c'est ça qui vient me chercher le plus sur ce genre d'enjeu, c'est que on n'est pas juste en train d'acheter des clous, quoi. On achète un truc et les services qui vont venir pour les 20, 30, 40 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe si Microsoft est nationalisé par les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe si les équipes de développement sont déplacées des États-Unis, un pays allié de la France, à un pays qui l'est peut-être un peu moins? Il y a plein de questions où c'est pas possible d'avoir les réponses sur autant de temps, je pense. Et c'est pour ça que cette doctrine d'acheter local, il me semble qu'elle devrait s'étendre à l'informatique.
Si vous avez de l'eau à apporter à nos moulins, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. On va passer à une rubrique bonus. Alors, tu vas aborder un sujet que je m'en veux de ne pas avoir pensé d'aborder, que ce soit dans mes prises de parole perso de la voix de Guillaume ou d'ailleurs sur mon blog ou je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, c'est très bien qu'on en parle ensemble sur Tech Café de ton bonus. Qu'est-ce que tu as donc dans ta besace, Pierre-Olivier ?
Eh ben, moi, j'avais envie de parler de Blade Runner, donc la version 2049 de Tonton Denis Villeneuve, parce que je l'ai vu récemment, du coup, forcément, j'ai revu le premier film de 1982 de Ridley Scott avant d'aller voir...
Remasterisé, j'imagine. T'as dû revoir une version de 92 ou après, non?
Je sais pas, je l'ai trouvé sur le sable de la baie des pirates. Donc forcément, j'avais envie d'échanger un petit peu sur le sujet parce que moi j'ai trouvé que c'était quand même un beau film et qui pose des questions tout à fait modernes, qui reprend les problématiques du premier, mais qu'en amène des nouvelles. On a aussi une intelligence artificielle, on a la place de la femme dans la société, on a un paquet de choses qui sont des thématiques nouvelles par rapport au premier film.
Alors, je l'ai vu dans... Je vais te donner les conditions dans lesquelles je l'ai vu. J'étais accompagné de deux personnes. L'une des deux personnes est extrêmement cinéphile. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui dévore les films et qui est capable d'ailleurs d'en parler avec les analyses qui vont bien. L'autre personne est une personne un peu plus... je mets des grosses cases, hein, évidemment, là-dedans, qui est un peu plus geek et peut-être un poil moins cinéphile. La première personne qui est cinéphile s'est à moitié endormie au début. Et elle dit, écoute, je capte pas, je piche pas, j'y arrive pas, et a du mal à s'y mettre, mais a reconnu que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue qualité du film, c'était quelque chose qui était très très bien placé. Et l'autre qui a vraiment adoré. Et moi, je me suis situé entre les deux, mais vraiment plus du côté des personnes qui ont adoré. Je pense aussi que la personne qui était, et ça va pas nourrir sa réputation très cinéphile, n'avait pas vu la première version de Blade Runner, donc n'avait pas fait ses devoirs comme tu as pu le faire. Moi, je l'avais revu pas dernièrement, mais je l'avais revu un petit peu avant, donc j'avais ça assez fraîchement en mémoire. Et j'ai trouvé ça aussi vraiment excellent. J'ai trouvé ce film d'une part vraiment captivant, et je trouve que il y a quand même une manière de mettre des ambiances qui est vraiment particulière, tout comme le premier d'ailleurs, mais revu au goût du jour. Les questions que tu soulèves et qui sont soulevées dans le film sont très vraies. C'est compliqué d'ailleurs d'y avoir des pistes de réflexion, de réponse, mais en tout cas ça te met en lumière des situations d'aujourd'hui et de demain, donc j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et j'ai eu donc la deuxième aspect de perception de ce film, c'est sur Facebook où j'ai l'ami Jean-Michel Abrassard qui anime Scepticisme Scientifique, un autre podcast que je vous invite à découvrir, qui a posté une publication sur le sujet et qui a dit je me suis retrouvé derrière une dame qui a dit qu'est-ce que c'est que ce film, on comprend rien, on s'ennuie, c'est trop long. Enfin, je sais plus comment il a réagi ça, mais en gros il avait envie de lui arracher les yeux et la langue, évidemment. Et donc j'ai rediscuté a posteriori avec le très très cinéphile qui m'a dit, écoute, je me suis penché sur le sujet, j'ai même regardé le premier, c'est un très bon film, c'est très bien travaillé, mais il n'y a pas de scénario. Et c'est là où je suis un peu embêté, c'est que forcé de constater qu'au niveau de l'histoire, il n'y a pas des tonnes d'histoires dans Blade Runner, mais que ce soit le premier ou le second. Et pourtant, la richesse qu'il y a à travers des scènes très contemplatives, très longues, moi me coupe le souffle. Donc bon, j'ai adoré, je recommande évidemment à tout le monde d'aller le voir. À plus forte raison, si vous avez aimé le premier, faut aller voir le deuxième, parce que c'est ni plus ni moins que le premier, mais en mieux et en plus moderne, à mon sens. Et tu as raison, ça soulève effectivement plein de questions. T'as eu des avis mitigés autour de toi, ou est-ce que tout le monde a été dithyrambique?
Tout le monde a plutôt aimé. Après, j'ai eu pas mal de réactions autour de moi en mode, ah ouais, mais c'est quand même encore un film macho où le héros c'est le gars, le service de gars, etc. Et moi, ça m'a un peu surpris comme réaction, parce que en fait, c'est un univers dystopique, et qu'est-ce qui est plus dystopique que de dépeindre un univers où effectivement les technologies sont au service de l'homme. On le voit dans toutes les publicités, le héros a une petite copine virtuelle, donc qui est designée, qui est conçue pour l'aimer, et ça c'est aussi une thématique à part entière, et évidemment le personnage le plus puissant, c'est un homme. Donc, enfin, pour moi, ça fait partie de l'univers, justement, de tout ce qui est dénoncé dans cette vision d'un futur possible de société. Et au-delà de ça, d'un point de vue plus cinéma, c'est-à-dire la façon dont le film est construit, pour le coup, les rôles féminins sont aussi forts que les rôles masculins. Donc, je n'ai pas l'impression de voir du machisme dans le travail de Villeneuve. Par contre, la société qu'il dépeint l'est totalement. Et voilà, mais donc bon, c'est une des réactions que j'avais eu autour de moi.
Ouais, si ça me semble clair. Si jamais la question c'est est-ce qu'il y a du machisme dans le film, la réponse est oui. Est-ce que c'est du machisme qui vise à être justement une manière de dénoncer le machisme et de le caricaturer tel que il pourrait l'être dans un univers dystopique, clairement. Est-ce que c'est simplement mettre en avant des mecs vis-à-vis de l'infériorité féminine juste gratuitement? Ça, je pense pas du tout. Je crois que t'as entièrement raison. Bon, mon bonus va paraître peut-être bassement matériel à côté de tout ça. J'ai vu passer un calendrier. Alors, ce sera la thématique de fin de cette émission et on va reparler de Google Agenda. C'est l'ami David, je parle beaucoup de mes amis aujourd'hui, de David Gégère qui anime un podcast sur les bandes dessinées. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans les notes de l'émission, qui m'a fait passer ce lien. Lui, il a été très, très emballé par ce produit que j'avais pas vu passer. Donc, du coup, j'ai creusé un petit peu à mon niveau. De quoi s'agit-il? C'est une espèce de grand écran en e-paper, donc la même technologie, un peu plus évoluée quand même, parce que notamment c'est en couleur, que les liseuses que vous pouvez utiliser aujourd'hui, et qui présente de manière très élégante un calendrier. Et c'est simplement un calendrier, et restitué comme si c'était du papier électronique, mais qui a évidemment l'avantage d'être connecté, donc rattaché à votre calendrier sur le cloud, celui que vous utilisez tous les jours, Google Calendar. Et c'est donc un projet qui a été souligné par Google. C'est une expérimentation qui a été proposée et qui serait peut-être en passe d'être réfléchie pour être commercialisée. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale parce qu'à l'heure où on nous parle d'écrans de télé habituels qui peuvent se transformer en œuvres d'art, où on se parle de la disparition du papier, etc., bah, j'ai trouvé cet usage hyper malin et très élégant et j'aurais pu tout à fait concevoir que ça pourrait être un produit présenté dans un Consumer Electronics Show, un CES à Las Vegas ou un autre salon. Et ça m'aurait pas du tout surpris. Et je suis même étonné qu'on voit ce genre de proposition que maintenant. Alors peut-être que là aussi, hein, Pierre-Olivier, tu vas me dire « Non, mais c'est pas nouveau, j'ai déjà vu ça. » Ou est-ce que au contraire, l'idée te séduit ?
L'idée est très cool. Par contre, la grosse question que je me pose, c'est quelle est l'innovation technologique que j'ai loupée ? Parce que moi, dans mon souvenir, les écrans e-paper en couleur, il y a 4 couleurs. C'est un brevet de Qualcomm et c'est pas folichon, quoi.
Ah, on est loin peut-être de ce qui est restitué dans la vidéo, parce que sur la vidéo, c'est très classe, hein, c'est digne d'un film de science-fiction.
Ouais, c'est sûr, mais voilà. J'ai un peu de scepticisme sur la faisabilité réelle, mais peut-être qu'on a fait des progrès, et j'espère qu'on a fait des progrès, bien sûr.
On va se documenter sur les évolutions des technologies, sur le e-paper, et puis peut-être que vous pourrez nous aider là-dessus. Vous qui nous écoutez, si vous avez des billes, je ne peux pas commencer la conclusion de cet épisode sans vous rappeler que Tech Café fait l'objet d'un financement participatif et que vous pouvez bien entendu contribuer si vous trouvez que l'émission a le moindre intérêt pour vous, si elle vous sert dans votre veille, si elle vous permet de découvrir des choses et si jamais elle vous fait aimer certains aspects que vous n'avez pas découvert dans la tech, bah surtout allez jeter un coup d'œil. Vous avez les liens dans les notes de l'émission avec la plateforme Tipeee et désormais ce qui est possible aussi c'est de nous soutenir avec la plateforme Patreon. Donc si vous aimez la plateforme américaine ou la plateforme européenne, bah vous avez le choix. C'est cool de pouvoir vous proposer les moyens que vous préférez et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la plateforme américaine, donc c'est très cool. Et je dois dire, tiens, sur le côté back office, c'est un point pour Patreon et zéro pour Tipeee, hein. Quand on compare les deux interfaces, force est de constater que Tipeee a beaucoup de retard. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui me soutiennent et qui ont rejoint le projet via les financements participatifs. Pierre-Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, à part dans les futurs épisodes de Tech Café, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut entendre plus parler de toi ?
Eh ben, retrouvez-moi sur Facebook, mais seulement si vous êtes accrédité Secret Défense. Et puis, n'hésitez pas à prêter l'oreille de temps en temps à mes plaintes et autres observations dans mon streetcast.
Le Blablapod, ça coupe encore un peu au moment de la citation la plus importante, le Blablapod. Et vous aurez même l'occasion d'entendre parler de vélo, de circulation en ville à vélo au quotidien, un sujet qui m'est cher en ce moment. Merci beaucoup Pierre-Olivier de t'être joint à cet épisode. C'était un grand plaisir de te retrouver et c'est un grand plaisir par avance qu'on puisse renouveler ces échanges. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez un petit peu partout sur les réseaux sociaux et dans les notes de l'émission et probablement très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.